Bonjour, bonne année 2017 et bienvenue pour ce nouvel épisode de ITcast, l'épisode 38 du 20 janvier 2017. Je suis Pascal Solière, Maxime est fidèle au poste et aujourd'hui nous avons deux invités. Tout d'abord, Marius Zaharia de la communauté Azug FR qui nous parle en direct d'un meet-up de sa communauté entre présentation et pizza. Avec lui, les questions du MS Cloud Summit et du Global Azure Bootcamp 2017. Nous recevons aussi Sylvain Cortès de la communauté Kadim qui nous parle gestion des identités, directory as a service, identity as a service et un sujet original, la gestion des salles de réunion. N'oubliez pas enfin de nous retrouver sur notre nouveau site itcast.io et on se retrouve tout de suite avec nos invités. Bonjour à tous, bonjour Maxime.
Bonjour.
Maxime, aujourd'hui on a deux invités. Donc on a Sylvain Cortès.
Bonjour.
Salut Sylvain, tu es à Paris aujourd'hui, bien que d'habitude tu es basé à Grenoble, c'est ça hein?
Tout à fait, tout à fait.
On a également Marius Zaharia, bonjour Marius.
Bonjour.
Et Marius, tu es dans un endroit particulier aujourd'hui?
Absolument, c'est un jour particulier parce que ça coïncide parfaitement avec un de nos meet-up préférés.
Alors comme tu viens de parler à ton meet-up, tu as la gentillesse de répondre, d'avoir répondu à l'appel ce soir en direct de ton meet-up. Le meet-up, il se passe où? Il se passe en plein Paris, dans une société qui s'appelle...
Exactement, c'est la société D2SI qui nous héberge gracieusement. Et comme en effet chaque mois, il y a une société qui fait cet effort et qui héberge des meet-up pour Azug FR, comme ça se passe pour toutes les communautés. Okay. Et à l'occasion, peut-être que c'est l'occasion quand même, puisque on parle de Azug FR ou Azure User Group France, c'est de parler un petit peu qu'est-ce que ça veut dire.
Voilà, j'allais te le proposer puisque tu vas commencer parce qu'en fait tu as une contrainte. C'est que les milliers de fans de Azug FR qui sont avec toi au meet-up pour bientôt sortir de la présentation et faire peut-être un petit peu de bruit autour de toi.
C'est donc... tout à fait ça. J'en profite le temps que les présentations techniques avancent en parallèle pour vous partager d'ailleurs que la salle est pleine. Et c'est vraiment une belle surprise parce que la semaine prochaine, c'est ce fameux événement de MS Cloud Summit dont on va parler après, j'imagine. Mm-hmm. Et pourtant, la salle est pleine. Donc, les gens sont toujours intéressés à venir à ces événements communautaires et à partager les expériences, à voir les démonstrations techniques et tout ça. Maintenant, si on revient à la communauté Azug FR ou Azure User Group France, c'est la communauté des utilisateurs, développeurs et IT pros passionnés d'Azure. Donc, on est vraiment focalisé sur Microsoft Azure, sur le cloud de Microsoft. Voilà, en deux mots. Et après, l'essentiel autour de cette communauté, c'est qu'on essaie d'organiser des événements de manière de plus en plus régulière. Pour avoir autour de nous beaucoup de monde, pour parler d'Azure chaque fois. Et on constate que cette approche, on va dire, à la fois développeur, IT pro, voire utilisateur tout court, fonctionne pas mal parce que c'est des métiers qui se rencontrent. C'est des gens qui, des différentes sociétés qui se voient tous les mois et qui discutent du cloud. Et de l'Azure en particulier.
J'ai déjà assisté à des meet-up Azug FR et notamment parfois avec d'autres communautés, puisque ce n'est pas interdit de mélanger un petit peu, enfin de rencontrer d'autres communautés à l'occasion de ces meet-up, de ces soirées.
Ouais, tout ça, à c'est fait, une chose... c'est sympa. Oui.
Exactement, c'est une chose intéressante. On a commencé en décembre, effectivement, avec une initiative d'organiser des meet-up conjoints de communautés. Là, on l'a fait avec Docker Paris, et c'était chez Selenza cette fois en décembre. Et donc, c'était absolument plein, et il y avait vraiment une moitié de la salle venue via Azug FR, une moitié venue via Docker, des gens qui ne se connaissaient pas du tout avant et qui ont commencé à faire, on va dire, les relations communautaires ensemble. Ça a été très intéressant. On va continuer comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas de communauté partenaire, mais certainement, on va faire de plus en plus souvent dans l'avenir.
D'accord. Vous parlez de quel sujet, du coup, aujourd'hui dans...
Alors, peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle la salle est pleine. On parle de l'IoT.
D'accord.
Donc, il y a plein de devices, il y a plein de, comment on s'appelle, des cartes, des toutes petites, des grandes, des robots imprimés 3D, tout servi par des services Azure, bien sûr, derrière. Et donc, c'est vraiment très geek ce soir. Je suis avec vous et je perds des démonstrations en live qui se passent en parallèle, mais bon, ça mérite, c'est pour nos auditeurs, hein, n'est-ce pas?
Exactement. Merci Marius. Et donc, tu voulais nous parler du MS Cloud Summit également?
Oui, peut-être qu'on va faire un passage en revue des événements un peu exceptionnels auxquels on participe. Donc, MS Cloud Summit 2017, c'est un événement communautaire focalisé sur les technologies cloud de Microsoft qui s'organise à Paris la semaine prochaine, donc entre 23 et 25 janvier. Et qui est organisé par plusieurs communautés qui d'ailleurs sont présentes dans ce call en partie. Donc on parle de AzureGFR, CMD, AOS, GUS, Agile.net. Donc toutes ces communautés sont mises ensemble pour former un événement qui a été assez difficile à organiser. Maxime, on sait bien.
Je te confirme. C'est...
Tout à fait, il y a un effort immense de la part de tous pour mettre tout ça en place. On espère de bien pouvoir réussir, mais jusque-là déjà... on peut dire qu'on a réussi parce qu'on est sold out. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant. Plus de 600 places, plus les speakers, plus les invités, plus les sponsors. Une palette de sponsors impressionnante, donc une page pleine. 7 tracks, initialement 6, mais maintenant ce sont 7 tracks. Et quelques dizaines de sessions, je n'ai pas le chiffre sous...
Il y en a 72 normalement, sans compter les préconfs, effectivement. Là, sur les préconfs, on est autour des 5-6 de mémoire. Ouais, c'est ça. À peu près.
Voilà. Et pour revenir un peu sur AzureGFR, nous nous sommes focalisés effectivement sur la sélection et sur l'organisation des tracks Azure. Donc, c'est un peu ça notre casquette de responsabilité. Moi, personnellement, j'aurai aussi deux sessions, une session orientée Azure Site Recovery et une session orientée AD B2C. Des sujets intéressants, je vais pas parler trop aujourd'hui, mais tous les sujets sont intéressants. Dommage qu'on ne peut pas inviter, on ne peut plus inviter des gens à venir parce qu'on est sold out déjà. Donc ça ne sert pas à grand-chose de les inviter encore. Mais sur l'ensemble, je suis confiant que ça sera un événement exceptionnel. Et par ailleurs, Microsoft sera bien présent.
Ça ne m'étonnerait pas non plus qu'une bonne partie de nos auditeurs soient déjà inscrits au MS Cloud Summit. Enfin, je l'espère en tout cas.
Et je ne fais pas partie de l'organisation, donc je ne connais pas tout. C'est pour ça que j'ai une question un petit peu bête. Est-ce que les sessions vont être enregistrées, filmées?
C'est pas prévu parce qu'il y a quand même un coût derrière associé aux ressources. Donc, ce n'est pas prévu. Par contre, on invite chaque speaker, s'il a les ressources pour le faire, d'enregistrer sa propre session pour la diffuser par la suite.
D'accord. On va y penser, donc.
Ouais, ne serait-ce qu'un téléphone sur un trépied, parfois ça suffit. Hein. Maintenant, on fait des vidéos en 4K avec des téléphones, donc voilà, ça devrait suffire.
Ok.
Ça peut être un bon moyen de backup pour avoir une trace de tous les échanges qui vont être réalisés, effectivement.
Ok, on va y penser. Donc, Marius, tu nous as présenté tes sessions.
Oui, ça a été rapide, encore une fois, sur Azure Site Recovery et sur Azure AD B2C. Mais encore une fois, je ne vais pas me focaliser trop, parce qu'il y a beaucoup de monde il y aura beaucoup de speakers qui auront des sessions intéressantes. Donc, j'espère que les miennes seront aussi intéressantes comme les autres.
Alors,
je laisse plutôt, les communautés s'exprimer cette fois.
Donc la raison pour laquelle à l'origine je t'ai proposé de venir nous parler avec nous dans cet épisode, c'est que tu avais un appel au peuple à faire à propos d'un autre événement d'un type un petit peu différent mais proche. Donc est-ce que tu peux nous raconter de quoi il s'agit?
Tout à fait. Donc, et c'est un événement qui est, on va dire, beaucoup plus historique que MS Cloud Summit, qui est la première édition. Donc, Global Azure Bootcamp, avant, ça s'appelait Global Windows Azure Bootcamp. Donc, ça a été renommé. C'est un événement communautaire, encore une fois, qui réunit l'ensemble, enfin, beaucoup de communautés mondiales Azure, un même jour du mois d'avril ou du mois de mai, un jour qui est choisi quelques mois avant. Et ce jour-là, tout le monde parle Azure. Donc, c'est un buzz énorme qui se fait ce jour-là. On constate sur les réseaux sociaux, sur, on va dire, sur l'impact dans les discussions, dans les publications, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment une journée Azure. C'est une journée de samedi. Cette année, ça va être le 22 avril 2017. Un samedi, forcément. Et comme chaque année, Azure FR organise, on ne vous a pas détaillé, mais Azure FR est organisé aujourd'hui à Paris et à Lyon. Et on est vraiment très ouvert à élargir nos antennes partout dans les régions, parce que on va dire Azure en plein essor et cette communauté suit effectivement l'essor d'Azure. Mais avant de parler de cet élargissement au niveau de la communauté, l'intérêt est vraiment autour de cet événement particulier qui, encore une fois, est global. Il est organisé par ailleurs d'un groupe de MVP globaux. Donc, ce n'est pas un événement organisé par Microsoft, c'est important à noter. C'est que des communautés. Et puisque nous organisons chaque année, on a un petit peu d'expérience depuis 2012 chaque année, cette année on a pensé de faire beaucoup plus intéressant, plus large et effectivement coopter d'autres enthousiastes, d'autres organisateurs, d'autres communautés partenaires pour faire dans d'autres villes. Donc encore une fois, Paris et Lyon sont déjà planifiés. Et entre-temps, on a des nouvelles assez concrètes, ce n'est pas 100% décidé, mais on a des nouvelles qu'on peut annoncer quand même, pour Nice. Donc peut-être qu'on va dire quelques petits mots sur... je n'ai pas sous la main les personnes, mais peut-être que je réussirai à vous les partager. Donc à Nice, c'est important déjà de voir, c'est Stelloberix, côté Azure FR, qui organise, qui effectivement attend du support local. Ensuite, on a la zone Aix-en-Provence-Marseille, qui est organisée par Seif Al-Akhtar-Gerou, par Jean-François Berenguer et par Rémi Bovy, qui sont tous autour de la communauté CMD. Et nous allons les aider à distance, s'organiser, tout ça. On s'associe avec. Et ensuite, on a Strasbourg. Strasbourg, qui sera organisé à la base par MUG Lyon, c'est Microsoft User Group Lyon. Je vais vous dire un petit peu plus tard les noms parce que j'essaie d'avoir sous les yeux l'annonce complète. Mais l'annonce, d'ailleurs, elle est disponible sur tous nos réseaux sociaux et publiée un peu partout. Donc, c'est disponible pour vous à voir dans quelles conditions. Donc, on a aussi des gens qui commencent à s'exprimer sur d'autres villes comme Toulouse, comme Nantes, comme la zone Orléans-Tours. Et à voir après sur des options sur Lille, peut-être effectivement d'autres grandes villes des régions françaises. Nous sommes vraiment, on se met à disposition des gens qui ont cette initiative pour les aider, pour les partager l'expérience. On va faire des forums internes pour échanger et à la fin, on veut effectivement d'avoir des jolis événements dans beaucoup de villes cette année. Et ça, les bons signes sont là. On aura, j'ai l'impression, un très joli Global Azure Bootcamp 2017.
Ouais, il y a du lourd en préparation, effectivement. Vous avez déjà ouvert les calls for speakers pour au moins Paris et Lyon ?
Non, c'est pas encore ouvert. Comme tout le monde autour des communautés, on est pour l'instant, on a bossé énormément autour de MS Cloud Summit. Mais ça c'est une très bonne remarque parce que parmi les choses à faire, il faudra ouvrir assez rapidement les call to speaker. En sachant que, d'ailleurs, une chose importante est aussi faire ces évaluations de on va dire de volumétrie, de voir combien de participants on estime l'avoir, et par la suite identifier les bons emplacements, les bonnes salles, et demander les bons sponsors.
Et du coup, le format du Global Azure Bootcamp, on est plutôt sur des formats de sessions ou des ateliers, des workshops. Le format, on va dire habituel de c'est Global Azure Bootcamp.
Donc ça commence en keynote avec des invités selon l'année et on va dire la visibilité de l'événement. On a des invités d'habitude de chez Microsoft qui feront des sessions de keynote. Et ensuite, on passe en mode session d'un côté avec un ou deux tracks de session. Et de l'autre côté, on a l'habitude de faire un track parallèle dans une salle parallèle qui est plus orientée lab, combiné, on va dire, session démonstrative lab. Et vraiment, les gens se split en deux. Il y a un intérêt également partagé sur les deux formats. Chaque année, on a de côté, on va dire, GabCorp, on organise des labs, comment dire, philanthropiques, on va dire, qui se mettent au support de certaines associations, par exemple, pour la recherche du cancer. Ou pour d'autres recherches médicales. Nous, on met à point, par exemple, un lab global qui va lancer des VM pour faire des calculs, par exemple, pour l'avancement de ces recherches. Mmh. Tout ça sur un support toujours technique intéressant. On démarre des services dans Azure, on a du code, on a des web apps, on a des machines virtuelles, des choses comme ça. Vraiment, donc ça parle vraiment Azure derrière. Voilà un peu comment ça fonctionne. On a des sponsors globaux chaque année qui font des cadeaux en logiciel ou en différentes souscriptions. Et après, on a des sponsors locaux. On a bien sûr tout ça avec de la bonne ambiance, des repas et boissons et tout ce qu'il faut avec. Et pas mal de monde chaque année. Voilà.
Donc, si quelqu'un dans une région qu'on n'a pas nommée ou qu'on aurait oublié a envie de participer, de monter quelque chose, mais qu'il n'a pas forcément l'habitude ou les moyens de faire ça tout seul, est-ce qu'il peut demander, vous contacter pour avoir une petite aide, voilà, pour organiser la chose, quoi.
Exactement. Donc, le but, c'est aussi d'agréger des gens qui peut-être ne se connaissent même pas. Et ça commence à arriver. On commence à avoir des gens qui nous contactent et qui disent « Moi, j'aimerais bien organiser dans cette ville-là, mais je ne connais pas grand monde. Mais par contre, je suis enthousiaste. J'ai aussi possibilité d'avoir des salles, tout ça. Mmh. » Et qui commencent à venir en parallèle pour la même région. Et on se met ensemble après derrière. On les aide à se connaître peut-être ou s'agréger ou oui, c'est vraiment ça aussi le but, et ça permet à la fin d'avoir cette vision globale des communautés autour du cloud Microsoft dans les régions. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas trop existé avant. Donc c'est une très belle occasion. On aura à la fin des événements estampillés, je ne sais pas, MUX Strasbourg Azure FR ou CMD Azure FR ou voilà, tout court. Donc, ces choses qui permettent de mettre en valeur cette manière de collaboration communautaire qui donne autant de valeur, on va dire, à notre travail.
Eh ben, merci Marius. Si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à contacter Azure FR par le site azug.fr.
Exactement, vous avez tous les .fr. AZUG.
Il y a tous les contacts dessus, il me semble. Hein, il y a tous les Twitter et
Facebook, c'est facile de vous contacter. LinkedIn, Meetup, tout ça.
Voilà. Vous avez vu que Marius est vraiment, comment on dit en français, j'allais dire comité, comme tous mes collègues, c'est horrible.
c'est vraiment impliqué. Des Microsofties, là.
Exactement. Ouais, hein. Vraiment impliqué.
Quand même
sur,
pas comité, s'il te plaît.
impliqué sur son projet. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre.
Exactement.
Voilà.
On vous attend avec plaisir.
Bah, écoute, merci Marius de tout ça.
Merci à vous.
Merci en tout cas.
On va te laisser à ta bière et à tes. Et à ton, je sais pas, qu'est-ce que vous avez des choses à manger, non? Des petits.
Oui, on a
pizza.
Des pizzas.
Voilà, pizza bière.
Le classique. Parfait, garde-nous un petit morceau quand même.
Bon, absolument.
Bon coup à notre santé.
Et on vous attend à la prochaine fois, au prochain Meetup, tous. Hein, on est d'accord.
Bah écoute, de toute façon, oui, on est inscrit sur meetup.com comme il se doit.
Exactement.
Pizza, bière et azur, c'est une bonne combinaison, fatalement.
Combinaison parfaite.
Eh ben, merci Marius, bonne soirée.
Bonne soirée à vous, merci.
Et puis,
merci,
et puis à bientôt.
Bonne soirée, Marius.
Bon, ben, c'était super intéressant comme événement.
Oui, c'était assez dense. Donc il y a pas mal d'événements qui vont arriver effectivement sur la partie azur.
Ouais,
le Global Azure Bootcamp, c'est un gros truc quand même. Hein. C'est,
ouais, j'ai été speaker, moi, il y a quelques. Enfin, c'était le. Je sais plus quelle édition, celle de l'année dernière, c'est ça. C'était le 25 avril ou mai, je sais plus. En avril. Et ouais, non, c'était un événement assez sympa.
C'est un événement déjà international qui, est, ouais. qui a beaucoup de. Qui a beaucoup de, voilà, de contenu, qui est organisé déjà depuis plusieurs années. Donc, il y a une notion, enfin, les trucs sont rodés, quoi. On n'est pas sur des choses en bêta version. On est vraiment sur un truc organisé avec un contenu qui est très riche.
Donc, le site, c'est global.azurebootcamp.net. Donc, Maxime, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait la dernière fois. La dernière fois, c'était encore il y a longtemps.
On n'a pas eu le temps.
On va parler un peu de nous, là. Désolé, on ne fait pas ça souvent, mais on va parler un petit peu de nous.
Mais j'aime pas trop parler de moi, des fois. Ouais. C'est un peu gênant, parfois. Tu vois.
Et ben, je te laisse le niveau d'information que tu veux. parce qu'on a annoncé, donc, mi-décembre, qu'on reprenait le podcast dans une nouvelle formule. On avait
fait
un épisode avec Fabien, voilà. Et puis après, il s'est passé encore un long temps, plus d'un mois avant ce nouvel épisode, parce que les fêtes et parce que le virus de la grippe et toutes ces choses-là, et le boulot et tout.
Eh oui. D'ailleurs, bonne année à tous. Hein.
Oui.
J'ai pas eu l'occasion de vous la souhaiter, mais bonne année aussi aux auditeurs. On a jusqu'au 31 pour le faire, donc j'en profite.
Ouais, bonne année à tous. Et donc, qu'est-ce que cette année, on va essayer de faire pour ce fameux podcast, Maxime? Et d'abord... puisque ça fait pas longtemps que tu es avec moi sur ce projet-là, est-ce que tu peux déjà te présenter, ce que tu fais, d'où tu viens
Alors, Maxime Rastello, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc architecte infrastructure chez Azeo, qui est qui est un partenaire Microsoft sur l'Île-de-France. Je suis aussi MVP Enterprise Mobility, donc ça touche à tout ce qui touche au scénario de mobilité en entreprise, Intune, Azure Active Directory.
Donc aujourd'hui, on est très identité, hein, aujourd'hui, avec vous deux.
Alors moi, je fais pas mal, effectivement. En ce moment, je fais pas mal d'identité. C'est un sujet qui est assez chaud, qui est aussi très structurant quand on part dans le cloud, que ce soit dans Office 365, dans pas mal... Faut faire un sujet d'identité avant de migrer ou d'utiliser, de consommer nos services cloud. Ouais. Donc voilà, moi en ce moment, c'est vrai que j'interviens en tant qu'architecte sur pas mal de projets autour de la gestion de l'identité, une grosse partie Windows 10 aussi, un petit peu d'Office 365 parce qu'en fait, tout est mêlé. Hein. L'identité, maintenant, elle touche au poste de travail, elle touche au service Office 365 et elle touche au service IaaS. Dans une moindre mesure sur Azure. Donc voilà, donc, ce que j'ai fait aussi depuis quelques temps, j'essaye de faire ça chaque mois, c'est des vidéos de démonstration que j'ai appelées des deep dives, que je publie sur Channel 9 et sur YouTube. En gros, je prends un produit dans Azure Active Directory ou un sujet qui pour moi est intéressant, qui tourne en général autour du cloud et autour de l'identité, mais pas que, hein, je ne suis pas fermé à d'autres sujets. Et donc voilà, après j'explique comment fonctionne le produit, je fais des démonstrations et je mets ça en ligne sur Internet. Après, donc, je participe à pas mal d'événements communautaires, donc je suis dans la communauté AOS, pour Azure Office 365 SharePoint. Donc AOS, si vous ne connaissez pas la communauté, allez sur le site aos.community. On fait pas mal de conférences, on a encore plein d'événements pour cette année 2017. Je vais être notamment à Dublin le 15 mars, c'est ça, pour aller donner une conférence. Avec un peu de chance, on pourra aussi visiter les data centers Microsoft, j'espère.
Ah bah oui, il faut.
Bah oui, on a demandé en tout cas, on aimerait bien planifier ça.
Juste après le bâtiment Guinness.
Ça c'est incontournable. En plus, il y aura la fête le 17 mars. Donc, voilà,
tu veux dire c'est la Saint-Patrick?
C'est bon, je sais plus quand c'est, mais on m'a dit que le 17 ça bougeait pas mal là-bas.
D'accord.
Voilà, après il y a d'autres événements prévus. Un autre événement avec la communauté CMD et AOS à Aix-en-Provence le 30 mars. Je vais moi-même organiser un autre événement AOS, cette fois sur Grenoble. Donc, Sylvain, si tu es dans le coin, tu es bienvenu.
Ah, enfin des choses loin de Paris, très très bien.
On fera ça donc à SupInfo Grenoble.
Ouais,
et ce sera le 22 mai. Donc, écoute, okay, si jamais tu as de la dispo, ou bloque tout de suite la date dans ton agenda, tu es le
bienvenu. Je la bloque immédiatement.
Voilà, et puis après, bah, d'autres événements, hein, toute l'année, courant 2017, ça bouge pas mal. C'est des conférences, des événements qui sont internationaux aussi, parce qu'on a pas mal de speakers francophones, mais pas que. Donc voilà. Après, je suis aussi. Alors, moi, je fais plein de trucs en ce moment. Je suis en train d'écrire un livre Office 365 aux éditions ENI, donc il sera publié normalement si tout se passe bien mi-2017. Et bah voilà, après je m'intéresse, hein, toujours de la veille communautaire. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le groupe Facebook Communauté IT Pro que j'avais créé il y a quelques années et bah, qui a pas mal grandi depuis. Normalement, je pense que vous êtes tous les deux inscrits, donc c'est
oui,
bien.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
N'hésitez pas non plus à aller faire un tour, poser des questions. Voilà, c'est vraiment un lieu d'échange assez informel sur toute la partie IT Pro.
Et puis, il y a un monde pas possible là-dedans, c'est énorme.
Ouais, on était... Alors, je ne saurais pas te donner, mais on doit tourner autour des 800. Alors, attends, tiens, je vais me connecter, je vais vérifier ça tout de suite. Il y a pas mal de monde, effectivement. On est 764, très précisément. Mais chaque semaine, je rajoute une dizaine de personnes à peu près.
J'avoue que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais il faut que je fasse la pub du podcast dans ce groupe-là, plutôt que dans des choses beaucoup plus restreintes, quoi.
C'est ça, parce que j'avais vu les groupes Facebook des communautés de développement, notamment Windows Phone à l'époque. Et je me suis dit, ben, on a vraiment... On manque vraiment d'un groupe Facebook sur la partie IT Pro. Et donc, j'ai créé ça. J'ai commencé à inviter mes contacts autour. Et puis, ça a grossi petit à petit à force d'en parler. Donc, c'est sympa.
Ouais. Donc, le podcast.
Alors, le podcast, un nouveau site internet qu'on doit encore peut-être peaufiner encore un petit peu. Mais en tout cas, on va dire que les bases sont là. Je te laisse annoncer l'URL, Pascal.
Ouais, alors on a fait ça vraiment à deux là, pendant les vacances. On était à droite à gauche et puis de temps en temps on avait un petit peu de temps et paf, j'ai monté une VM dans Azure, j'ai mis un Linux dedans, j'ai trouvé des moyens d'installer simplement WordPress. Donc j'ai trouvé le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est avec un Nginx en fait, c'est même pas un Apache, donc c'est assez original pour un WordPress. Et voilà, et c'est tombé en marche. Et en fait, toi tu t'es chargé plutôt de tout l'aspect esthétique, thème du site.
Ouais, c'est ça, il y a encore un petit peu de travail, hein, mais bon, le but c'était de trouver un petit truc assez sympa pour ce nouveau site.
Le thème est efficace, hein. Moi je trouve que c'est clair, c'est net, c'est précis, franchement, même si c'était simple, vous avez fait du bon boulot.
Ah ben merci, merci beaucoup Sylvain.
Merci, c'est sympa, c'est le premier feedback qu'on a dessus, donc je prends.
C'est le premier utilisateur. Cela dit, non, t'es pas le premier utilisateur du site, puisque ça fait un moment que j'ai déjà redirigé le flux RSS. De l'ancien URL vers le nouvel URL. Et donc, en fait, le URL du site, donc oui, il faut le dire, c'est itcast.io. Itcast.io. C'est très simple, c'est beaucoup plus simple à retenir que le précédent. Donc voilà. Il y a également tous les aka.ms que j'avais fait précédemment pour certaines redirections, je les ai redirigés vers le nouveau. Donc, a priori, peut-être que pas mal de monde l'ont déjà vu sans s'en rendre compte.
Alors, en tout cas, si vous avez un logiciel de podcast préféré, hein, tout est compatible avec les standards. Donc,
ouais.
Vous utilisez un truc Apple ou autre, ça fonctionnera. Vous pourrez écouter ça dans le métro, en offline, sur votre téléphone, sans problème.
Par contre, il vaut mieux, dans ce cas-là, se désabonner, se réabonner.
Ouais, d'accord.
Parce que l'URL du flux RSS a changé. Et la redirection que j'ai mise sur l'ancienne URL, je ne vais pas la garder un temps infini. Je vais la garder quelques mois peut-être,
ouais.
Mais un jour, il faudra bien l'enlever, quoi. Donc itcast.io, j'ai récupéré l'historique autant que j'ai pu. Il y a un moment où on pourra supprimer complètement l'ancien site, qui n'était pas vraiment terrible. Hein. C'était un truc open source dédié au podcast, qui était vraiment très basique, mais qui a fait qui a fait tenir le job pendant un an et demi.
Voilà, il y a un petit espace blog aussi maintenant qui permettra de mettre un petit peu l'actualité de ITcast et peut-être du site en lui-même, on verra. Et puis pourquoi
choses,
pas ouvrir ça à des contributions extérieures. Mmh. Hein,
Comme c'est du WordPress, on peut faire ce qu'on veut.
C'est ça, donc n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires dans les épisodes ou dans le blog.
Ce qui m'amène,
pour vos avis.
Ce qui m'amène à la question... à laquelle on n'a pas toujours pas répondu, alors je ne sais pas, peut-être qu'on va en discuter, hein. Comment nous contacte-t-on ?
C'est une bonne question.
Parce qu'on dit,
je pense qu'il faut mettre en place un formulaire de contact directement sur le site qui enverra vers une adresse mail derrière.
Un mail ?
Peut-être. Ou un formulaire de contact directement sur le site. Il y a des plugins WordPress.
Ouais, avec WordPress, on peut faire ça facilement.
C'est ce que j'ai déjà sur mon blog, donc... Ouais. Ça fonctionne assez bien.
Et un Twitter générique, enfin un Twitter au nom du podcast.
Non, oui, pourquoi pas aussi. Hein, ça peut être l'occasion de faire un Twitter et de mettre les épisodes à chaque fois dessus, avec le hashtag ITcast. On peut lancer ça, effectivement.
C'est ce que je fais depuis le début, mais sur mon compte personnel, quoi.
Ouais, d'accord.
Donc, on peut faire les deux.
Tout à fait.
Ok, on fera ça. En attendant, c'est nos Twitter à nous, nos mails à nous, etc. Donc, est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire ? Ah oui, quand même, le podcast, c'est une forme, mais il y a aussi du fond.
Bien sûr.
Et nos chers auditeurs ont peut-être remarqué que depuis l'épisode de décembre, on essaye de faire un petit peu du neuf. Donc déjà, on est deux, ça change, Microsoft et non-Microsoft, et... On essaye de faire quelque chose autour des communautés, autour des technos Microsoft, mais pas que. Donc ça veut dire beaucoup effectivement de technos Microsoft parce qu'on vient de là, mais l'ouverture étant ce qu'elle est, on n'est pas obligé de se contenir purement à ces technos-là. Par exemple, je sais pas, moi en ce moment je bosse pas mal sur des projets DevOps avec des clients, il arrive que de toute la journée j'entends parler que de Java... de Maven, enfin des choses dont je ne connaissais même pas l'existence il y a une semaine. Quoi.
C'est ça, et puis ça fait partie de la nouvelle stratégie de Microsoft aussi, d'ouvrir l'écosystème et d'aller vers l'open source un maximum. Microsoft love Linux, hein. Ça on l'a vu pas mal. On a du SQL Server sur Linux, on a beaucoup de choses, du PowerShell sur Linux, on a plein de trucs. Donc voilà, c'est vrai que Microsoft s'ouvre de plus en plus. Et c'est aussi ce qu'on retrouve du coup dans les communautés, parce qu'on on se retrouve à faire des événements avec des interlocuteurs ou des communautés qu'on ne connaissait pas avant. Hein. Marius vous en parlait tout à l'heure avec Docker qui est invité au meet-up de ce soir. Ouais. Mais c'est vraiment sympa, quoi.
Et puis c'est ce qu'on retrouve chez les clients également, hein, dans les organisations, dans les entreprises. Il y a cette mixité qui est présente, donc c'est très bien que Microsoft plonge dans cette nouvelle vague et propose cela. Enfin, moi, ça fait des années que je bosse dans le monde de l'interopérabilité entre Linux et on va dire Microsoft. Et c'est vrai que maintenant, ça devient une réalité directement implémentée dans la stratégie de Microsoft. Donc, c'est très intéressant.
Ça fait des années qu'on savait faire du Kerberos sur Linux et l'Active Directory. C'était pas simple, mais on savait le faire, quoi.
C'est ça.
Donc, si on parlait tout à l'heure de formulaire de contact et tout ça, c'est aussi pour un but... clairement affiché, qui est un appel à contribution. Donc si vous voulez intervenir, si vous faites partie de la communauté ou avez envie de partager vos expériences, etc., n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous invite dans un épisode comme ça, et on parle tranquillement entre nous. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de marketing, il n'y a aucun objectif marketing, il n'y a aucun aucun objectif poussé par Microsoft ou porté par Microsoft d'un point de vue marketing, com, etc. dans ce podcast. C'est complètement indépendant. D'accord, ça fait pas partie de...
Ouais, c'est ça. C'est important, effectivement, de garder cette distance. Même si tu travailles chez Microsoft, tu es capable d'avoir cette distance et ce recul nécessaire. Et aussi inviter les communautés, ça fait partie de... Bah, justement, d'avoir la voix de Microsoft, mais aussi la voix des communautés.
Exactement. Donc, on va fermer ce petit chapitre auto-centré. C'est d'accord ?
Oui. Parlons maintenant de Sylvain.
Oui. Donc, d'habitude, grenoblois et aujourd'hui parisien, pour les raisons professionnelles, j'imagine.
Tout à fait.
Donc, tu te présentes un petit peu, tu fais quoi et puis, qu'est-ce que tu fais notamment dans la communauté ?
Très bien. Donc, moi, je suis Sylvain Cortès, effectivement. Grenoblois d'origine, mais... parisien pour le travail très souvent. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je bosse dans l'IT, donc je commence à faire partie des vieux. Hein. Quand je regarde dans la communauté autour de moi, je commence à faire partie des anciens par rapport à la jeunesse qui émerge. oui, Pascal, tu dois avoir le même ressenti que moi de temps en temps. Ouais. Donc effectivement, moi je bosse depuis une vingtaine d'années dans l'IT de façon globale et de façon, on va dire, plus précise, maintenant j'ai un rôle d'architecte sur toute la partie identity management. J'ai travaillé avant dans le monde des annuaires, on va dire de façon globale, depuis longtemps, donc tout ce qui était LDAP, Novell, tu as dû connaître la NDS, et puis bien sûr ensuite Active Directory. Donc voilà, ça fait des années que je suis dans ce monde-là, et puis j'ai également trempé pas mal... dans le premier annuaire qui existait chez Microsoft, qui était en fait l'annuaire d'Exchange. Puisque le premier annuaire chez Microsoft, c'est pas Active Directory, c'est l'annuaire Exchange. Donc voilà, ça fait des années que je suis dans ce monde-là. Donc historiquement, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était LDAP, Active Directory, énormément de migrations pour des grands groupes, des migrations Active Directory dans des merges et acquisitions et ce genre de choses. Avec une grosse spécialité sur la partie Kerberos, donc c'est là où j'ai on va dire touché du doigt toute la partie interopérabilité, puisque j'ai fait énormément de travail et d'investigation et de missions autour de l'interopérabilité liée à Kerberos, c'est-à-dire pour faire très simple. Un Active Directory, du Windows, d'accord, mais j'ai aussi de l'Unix, du Linux, du macOS. Bah, comment je fais pour faire cohabiter tout ça et comment je fais pour mettre en musique ces différents operating systems en termes d'authentification, d'autorisation, gestion de mots de passe, voilà, ce genre de choses. Et c'était plutôt dans le secteur bancaire, parce que le secteur bancaire est soumis à des normes un peu particulières qu'ils doivent suivre, et le fait d'intégrer dans AD les environnements non Microsoft répond à leur problématique de sécurité. Alors je sais que pour certains Unixiens pure souche, ça paraît curieux lorsque je leur dis qu'il faut mettre leurs Unix dans Active Directory pour le sécuriser, mais la réalité, c'est quand même celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est historiquement ce que j'ai fait. Et puis là, depuis quelques années, je travaille énormément sur la partie cloud et notamment sur deux notions qui sont l'identity as a service et le directory as a service. Alors je suis rentré là-dedans un peu par hasard, un peu les rencontres de la vie comme souvent. J'ai rencontré un gars, je ne sais pas si ça vous parle, un gars qui s'appelle Louis Nogès.
Non, je connais pas, non. Non.
Tu vois, t'es trop jeune, Maxime, c'est pour ça.
Ça doit être ça.
En fait, c'est le monsieur qui a inventé le mot bureautique.
D'accord.
Donc, c'est un gars qui est assez âgé maintenant, mais qui a gardé la foule, qui a gardé la flamme, et qui est passionné du cloud. Et il a inventé un concept qui s'appelle le Trust as a Service. Donc, pour faire très simple, il désigne que quelqu'un qui va aller dans le cloud doit mettre en œuvre un certain nombre de composants Avant d'aller dans le cloud, donc Maxime disait tout à l'heure que il y avait une track identity lorsqu'on allait utiliser des services cloud. L'idée c'est un peu celle-ci, sauf que on est un peu plus large que l'identité. On est sur une notion qui s'appelle le trust as a service et qui intègre notamment toutes les problématiques d'identity as a service, de directory as a service, de privilège as a service, etc. Et puis donc voilà, les hasards de la vie ont fait que j'ai commencé à travailler avec ce monsieur et puis à écrire une thèse professionnelle sur le sujet en fait. Donc voilà, ça fait plusieurs années que maintenant j'écris, je fais des workshops, j'anime des séminaires autour de l'identity as a service et du directory as a service. Donc c'est des sujets forcément passionnants hein, puisque c'est des sujets qui bougent énormément, qui sont très demandés par les différentes organisations et où il y a une nouveauté permanente qui fait qu'on n'a pas le temps de s'endormir et qui sont très riches en termes intellectuels. Donc en termes de communauté, alors j'ai fait beaucoup de choses évidemment pendant ces années. Alors moi aussi je suis MVP, je fais partie de la secte des MVP depuis 11 ans.
Donc, ça commence à faire hein, 11 ans.
Ça commence à faire, ouais, c'est pour ça que je dis que je suis vieux, tu vois. C'est ça commence à faire. Oh, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient encore plus vieux que moi, donc ça me rassure.
Ah ouais.
alors j'ai d'abord été MVP en fait sur les GPO pendant de nombreuses années. On était 11 dans le monde, hein. On n'était pas bien nombreux. Hein. Donc voilà, j'ai commencé sur les GPO en fait. Puis ensuite, j'ai été MVP sur Active Directory une année ou deux.
En parlant de GPO, justement, t'as un blog que t'as dit.
Alors oui, alors il y a alors le blog. Je parlerai après un peu des sites web. Le blog a migré en fait sur la partie CADIM. Effectivement, avant j'avais un blog qui était dédié à ça, qui était dédié au GPO et qui est maintenant une des sections de la communauté CADIM. Mais je vous en parlerai juste après sur la partie CADIM et communautaire. Et puis ensuite, j'ai maintenant, depuis trois ans, rejoint l'équipe qui est dans la partie IDA, donc qui est rattachée en termes de produits à Microsoft Identity Manager, et qui fait partie maintenant d'Enterprise Mobility. Pour ceux qui connaissent un peu le programme MVP, c'est un petit peu, on va dire, ce qui contient l'ensemble des IT Pro avant. Voilà.
C'est ça, ouais, c'est un peu une catégorie fourre-tout en fait.
C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. D'un point de vue équipe produit, je suis rattaché à l'équipe qui gère la partie identity. Voilà.
Tu n'as pas dit pour qui tu travaillais, c'est peut-être.
Non, alors oui, alors je travaille dans une société qui s'appelle Cerveris, qui est basée à Grenoble.
D'accord.
Et qui a un métier un peu particulier parce qu'on n'est pas une SS2I. Mm-hmm. On est ce qu'on appelle un VAD, alors VAD en bon français, qui veut dire Value Added Distributor. Donc pour faire simple, c'est de la distribution, mais de choses très particulières. Donc nos clients sont des SS2I, des intégrateurs, des revendeurs, alors soit des très gros, soit des moyens, soit des petits, ça dépend de quoi ils ont besoin. Et on travaille dans deux domaines en fait, donc on distribue des solutions et on assure l'installation des solutions dans deux domaines. Un premier domaine qui est, ça vous surprendra pas, tout ce qui concerne l'identity management.
D'accord.
Donc avec des solutions autour des annuaires, de la gestion des privilèges, du SSO, de la fédération d'identité, voilà, donc des choses assez classiques quand on travaille dans le monde de l'identity management. Avec une couleur Microsoft, mais pas que. C'est-à-dire beaucoup de choses autour d'Unix, Linux et aussi bien sûr Microsoft. Et puis on a une deuxième BU qui est centrée sur ce qu'on appelle chez nous les espaces collaboratifs. Et pour faire très simple, ça va concerner un ensemble de solutions autour d'une thématique qui est la salle de réunion. Et là, par contre, on est très clairement dans l'écosystème Microsoft. Bon, Microsoft, en termes collaboratifs, ça ne surprendra personne, c'est quand même le leader. Et quand on regarde le marché, ce qu'il propose n'a pas vraiment d'équivalent sur les autres systèmes. Donc, on distribue un certain nombre de solutions autour de la gestion des salles de réunion, donc autour d'Exchange, autour d'Office 365, pour permettre notamment aux grandes organisations de trouver des salles, de les qualifier, de les réserver, de commander des plateaux repas, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de solutions qui tourne autour de l'écosystème Exchange et Office 365. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nos clients sont des intégrateurs, quoi. On ne fait pas de vente directe auprès des, auprès des clients finaux, on passe par un réseau d'intégrateurs en France et beaucoup à Paris. C'est pour ça que je suis à Paris.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Et puis également à l'étranger, puisqu'on travaille un peu dans toute l'Europe du Sud également. Voilà.
Et la partie celle de Réunion, vous gérez quoi exactement? Moi, ça m'intéresse.
Alors il y a beaucoup de choses, mais on va dire les deux éléments principaux demandés par les clients, c'est une interface qui soit intégrée dans Outlook. Donc, c'est-à-dire que les clients veulent avoir quelque chose de complètement intégré dans l'écosystème. Ils veulent pas utiliser un site web parallèle pour gérer les salles de réunion. Ils veulent que ce soit fait depuis Outlook.
Ouais, tout à fait.
Donc en fait, on va rajouter pour faire très simple, une web app en fait maintenant dans Outlook, dans Outlook Web Access ou ce genre de choses, qui va en fait venir dans le formulaire de réservation de réunion. C'est-à-dire que quand on est depuis Outlook, on va faire une demande de réunion, on appelle un formulaire dans Outlook et on va retrouver dans ce formulaire en fait une extension du formulaire avec tout un tas de choses qui vont permettre de trouver la salle, par pays, par ville, par étage, de trouver une salle parce qu'elle est équipée d'un vidéoprojecteur ou d'autres choses, d'avoir la photo de la salle, de savoir où elle est située, d'avoir son code Wi-Fi, enfin voilà, d'avoir tout un tas d'éléments sur la salle. En fait, on va, d'un point de vue technique, ce qui est assez amusant, c'est que les solutions qu'on distribue généralement ne fonctionnent pas sans Exchange ou Office 365. C'est-à-dire que on va s'appuyer sur ce que c'est très bien faire Exchange ou Office 365 de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les freebies d'Exchange ou d'Office 365 et on va venir rajouter en fait tout ce qui ne sait pas faire. Voilà. Donc la photo de la salle, les caractéristiques qu'on peut imaginer sur une salle. Et puis aussi la commande de service rattachée à la salle. Il y a beaucoup de clients qui ont des besoins pour dire voilà, je réserve la salle, mais je veux aussi alors quand je dis salle, c'est au sens large du terme, bien évidemment, hein. Ça peut être des petites salles, des grosses salles, des amphithéâtres, des salles de conférence, etc. On va dire des espaces de travail ou des espaces collaboratifs. Et puis il y a beaucoup de clients donc qui ont besoin de commander des services associés à la salle, arranger la salle d'une certaine façon, faire livrer des plateaux repas, commander du coca, des biscuits, des bouteilles d'eau, faire en sorte que on réserve automatiquement un parking à l'accueil parce que c'est des gens de l'extérieur qui viennent au meeting. Voilà. Donc, on va être capable d'intégrer en fait dans la réservation de salle depuis Outlook l'ensemble de ces éléments et commander un ensemble de choses. C'est des solutions qui ont beaucoup de succès. Et puis le deuxième pendant qui est demandé généralement dans ce type de solution, ce sont des écrans. Alors il y en a chez Microsoft.
Ouais, ça, je te le confirme, il y a beaucoup de demandes. J'en vois passer beaucoup.
Surface Alors web, ceux chez Microsoft sont pas très très bons, hein, pour être honnête.
Comment?
Pascal, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave. Donc des écrans en fait qui sont. Alors quand je dis écran, à nouveau, c'est au sens large du terme, parce que ça peut être des écrans qui sont faits que pour ça, donc qui ont des caractéristiques qui sont forcément designés uniquement dans cet usage-là. Mais on peut aussi utiliser des tablettes avec des applications qui viennent dessus. Mmh. Et en gros, on va associer dans Exchange ou dans Office 365 ce qu'on appelle une boîte aux lettres de ressources à un écran. Et il va y avoir une association un pour un en fait, entre cet écran et la boîte aux lettres de ressources. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça fonctionne de façon indépendante, mais communique. C'est-à-dire que parce que je fais une réservation depuis Outlook, automatiquement c'est dans Exchange, donc ce qui est dans Exchange va se retrouver sur mon écran. Les écrans se mettent à l'extérieur des salles et vont avoir plusieurs fonctions, vont permettre de visualiser si la salle est disponible ou pas, déjà, c'est le premier usage de ce type d'écran, mais aussi de pouvoir réserver la salle si elle est disponible, de pouvoir accéder à des plans d'étage pour trouver une salle dans un autre étage, de pouvoir dire s'il y a un problème dans un équipement dans la salle, si par exemple il y a une lampe d'un vidéoprojecteur qui est grillée, de pouvoir aller sur l'écran et d'informer immédiatement les gens qui s'occupent des facilities. Voilà, donc ces écrans-là ont tout un tas de fonctions et notamment aussi de confirmer qu'on est bien présent dans la salle. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on fait des statistiques sur les réservations de salles de réunion, on a en gros 20% des salles qui sont réservées mais qui ne sont pas utilisées. Donc sur quand on a plein de salles et que l'immobilier coûte pas cher, c'est pas très grave. Quand on est chez des organisations qui sont à Paris, à la Défense par exemple, où le mètre carré coûte assez cher, ils ont besoin en fait d'optimiser de façon très très forte l'usage qui est fait de leur mètre carré.
On connaît bien ça ici.
Donc l'écran en fait va avoir une espèce de bouton. Il y a plusieurs façons de faire, mais je vais confirmer que je suis là et à ce moment-là, j'ai
valider complètement ma réservation. Et si je ne suis pas là au bout d'un quart d'heure, par exemple, si j'ai réservé à 14h et qu'à 14h15, je ne suis pas là, bah, la salle va se rendre disponible automatiquement. On va annuler la réservation dans Exchange et ça va permettre à quelqu'un de l'utiliser s'il en a besoin. Donc voilà, il y a tout un tas de scénarios, d'usages. On commence à travailler avec des beacons aussi pour être capable de détecter si quelqu'un est automatiquement dans la salle. Voilà, on travaille sur tous ces sujets-là et c'est des sujets qui sont super riches, super variés et super intéressants, notamment parce que on travaille pas qu'avec des gens de l'IT. On travaille beaucoup avec des gens en fait des bâtiments qui ont des besoins très particuliers. Quand tu viens de l'IT, c'est assez amusant.
Donc on a un système proche de ça, mais qui est vraiment embryonnaire par rapport à ce que tu décris dans notre bâtiment ici les Moulineaux. Donc je sais pas si vous avez été dans la boucle.
Ouais, honnêtement, moi, je les trouve très moches, hein, les affichages dans la douce.
Les petits écrans devant les portes des salles qui indiquent si elle est libre, cela là. Hein.
Tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est bon, on va dire quelque chose qui est à milieu de ce qui se fait maintenant, mais c'est aussi parce que le bâtiment commence à dater maintenant. Hein. Il est pas, il est plus si jeune que ça.
Il date de 2009, effectivement.
Eh oui.
Pour l'IT, ouais, c'est vieux. Hein. Pour du bâtiment, c'est pas vieux, mais pour l'IT, c'est vieux.
Exactement. Donc voilà, je m'amuse pas mal parce que du coup, je rencontre plein de gens différents, plein de partenaires différents. On accompagne aussi beaucoup les partenaires parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont des besoins, en fait, qui détectent des besoins chez des clients, mais qui ne maîtrisent pas forcément ces solutions-là, qu'elles soient côté identity management ou côté espace collaboratif. Et donc, on fait également beaucoup de services, mais en sous-traitance des partenaires. À nouveau, on ne fait pas de vente directe auprès du client. Donc, on travaille main dans la main avec les partenaires sur des projets super sympas. Et j'en profite pour remercier tous les partenaires qui nous amènent du boulot, parce que franchement, en ce moment, c'est plutôt actif, on va dire. Et c'est vrai que c'est très enrichissant, quoi. Moi, je sais que même si je suis un petit peu vieux maintenant, je continue de m'amuser et c'est le principal. Alors donc sur la partie communauté, maintenant pour être un peu plus focus sur ce que je fais sur la partie communauté, y a pas mal de choses. Alors moi je préside une communauté en fait qui s'appelle la CADIM, qui a maintenant une dizaine d'années d'existence. Ça fait déjà 10 ans.
Ah oui, quand même.
D'accord. Ouais, quand même. Alors CADIM, ça veut dire quoi? Ça veut dire Communauté Active Directory et Identity Management. Donc à l'époque, le cloud n'existait pas trop. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion d'identity as a service ou ce genre de choses. Mais bien évidemment, ça fédère des professionnels, mais il y a de plus en plus de gens qui sont architectes IAM ou architectes cloud d'ailleurs chez des clients et qui se renseignent. Ça fédère en fait toutes les technos autour de la gestion des identités. Alors bien évidemment autour de l'écosystème Microsoft, mais pas que. Il y a beaucoup de choses autour d'LDAP, autour de Kerberos, autour de l'identity as a service de façon globale, autour de la fédération d'identité. Donc là, bien sûr, ça peut être ADFS, mais on a parlé et on continue de faire des choses aussi et d'évoquer, je sais pas, Shibboleth ou des partenaires Microsoft comme Ping Identity, voilà, qui font des choses autour de la fédération. Donc c'est l'ensemble des technos autour de la gestion des identités et des annuaires. Qu'est-ce qu'on fait au travers de cette communauté? Il y a eu une petite pause, on va dire, pendant 2-3 ans, parce que c'était compliqué de trouver des gens qui voulaient participer, en fait. Hein. C'est aussi la complexité du mode communautaire, c'est que y a des gens qui sont mutés, qui s'en vont, et pour les remplacer, c'est pas forcément évident. Mais là, on a un second souffle, on est en train de faire une refonte complète du site web, puisque encore une fois, on avait un site web qui référençait un certain nombre de fonctions en termes de forum, en termes de contenu, etc. On a décidé en fait de créer un forum Facebook, un petit peu comme Maxime avait réalisé autour de la communauté IT Pro. Donc en fait, la partie forum a migré sur un forum Facebook. Et donc du coup, on est en train de refaire le site web avec un nouveau contenu, plus axé sur justement les événements qui vont avoir lieu. Donc on aura, alors en 2017, ça va être un, pour les 10 ans en fait, on va essayer d'organiser, enfin c'est pas, on va pas essayer, on va le faire. La date est pas encore arrêtée, mais j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour vous annoncer ça de vive voix. On va refaire en fait ce qu'on avait fait il y a plusieurs années, qui était un Identity Day. Donc on avait organisé ça conjointement avec Microsoft il y a quelques années de ça, et en gros on avait fait une journée complète sur tous les services et tous les sujets autour de la gestion des identités de façon large. Ça avait eu un succès énorme à l'époque, puisque pareil, on avait été obligé de refuser du monde. Pourtant on avait organisé ça, voilà, on avait prévu assez large. Donc on va essayer d'organiser ça à nouveau cette année pour les 10 ans de la communauté. On ne sait pas encore si ça va être format 1 ou 2 jours, mais je pense qu'on va rester raisonnable, on va rester sur un jour. Par contre il y aura plusieurs tracks sur le sujet, et il n'y aura pas que de l'identity management chez Microsoft, ça sera plus large que ça, même si bien évidemment il y aura une part importante autour d'Azure AD et des fonctions qui sont proposées par Azure AD Premium autour de la gestion des identités. Ça va être un gros boulot de préparation, ouais. C'est un gros boulot aussi au niveau du contenu, parce que on souhaite avoir un contenu très qualitatif. Donc il y a une recherche de speakers qui ne sont pas forcément que des speakers français. Donc voilà, on est en train d'organiser tout ça, mais ça va se faire donc en 2017, et on aura une journée complète sur la gestion des identités, et je pense que ça sera un bel événement. Voilà. Donc sur la partie communautaire, à part l'Académie, mais évidemment donc que je préside, donc que j'anime principalement, je participe à tout un tas d'événements différents en termes de speakers, que ce soit les ex-Tech Days, on va pas les appeler les Tech Days, désolé, Experience.
MS Experience.
C'est pas grave.
Ah voilà. Que ce soit les SPS, voilà, donc. Effectivement, j'essaie de participer quand je peux, parce que c'est à nouveau, c'est pas toujours très simple d'allier la vie pro, la vie perso, et puis les éléments communautaires. On s'en rend pas forcément compte quand on habite Paris, mais c'est une vraie difficulté quand on est en province, c'est que voilà, il y a des déplacements, voilà, tout est plus compliqué quand même. Voilà. Donc je participe à des événements en tant que speaker régulièrement, alors que ce soit à Paris, à Genève ou ailleurs. Et puis j'ai également un blog en français. Alors il y a certains articles que je fais en anglais, parce qu'il y a des gens qui me le demandent de le faire en anglais, mais j'ai un blog qui s'appelle identitycosmos.com, donc je pense qu'il y aura les liens dans le podcast, qui traite de la gestion des identités en français de façon assez large à nouveau, puisque j'aborde évidemment des choses autour d'Azure AD. D'ailleurs là j'ai une série d'articles qui va être bientôt en ligne autour d'Azure AD Premium, avec un contenu, j'en suis à 150 pages Word pour l'instant, donc je pense que quand ça va...
D'accord.
Ah oui, c'est même un bouquin en fait que tu
ouais,
devrais
écrire. Plus proche du bouquin que du blog. Voilà, je traite de tout ce qui est carvérisation des systèmes, tout ce qui est LDAP, tout ce qui est gestion des privilèges, tout ce qui est annuaire au sens large du terme, tout ce qui est fédération. Donc il y a à la fois des articles, il y a des articles qui sont très techniques. J'ai fait un article notamment... sur la migration de certains éléments autour de Nice vers Active Directory. Donc là, c'est des articles très techniques, parce que voilà, c'est la copie d'écran, de la ligne de commande Linux, ce genre de choses. Puis aussi des articles un peu plus, on va dire, ouverts d'un point de vue champ des possibles, où là, je vais plutôt aborder des choses sur la stratégie, sur ce qui se passe, les choix qu'il faut faire. Voilà. Donc plus orienté, on va dire, conseils que véritablement éléments techniques. Et j'anime ce blog maintenant depuis 7 ans, et je suis en fait assez impressionné moi-même du nombre de personnes qui viennent, quoi. C'est juste quand on regarde les statistiques, c'est quand même assez impressionnant. Quand on regarde les statistiques de nos blogs, on a parfois du mal à se rendre compte que c'est des statistiques réelles, quoi. C'est juste complètement fou, quoi.
Ouais, mais c'est surtout un sujet, comme on disait tout à l'heure, structurant et vaste aussi. Donc, moi, ça me choque pas. Hein, ça me choque pas qu'il y ait beaucoup de demandes sur cette partie-là, parce que dès qu'on parle d'un quelconque projet, il faut traiter la partie identité. Quoi.
Ok. Donc, t'as un article super intéressant sur Nice. Je le note en tant qu'ancien également, comme toi. Ça va me rappeler ma jeunesse.
Alors pourquoi j'ai fait cet article sur Nice, c'est assez intéressant parce que en fait on en parlait en off, mais Microsoft dans Windows 2016 a décidé, bon, pour des raisons je pense qui sont valides, d'enlever un certain nombre de fonctions liées à l'interopérabilité Unix au niveau de Windows 2016. Et en gros, pour faire très simple, hein, y a deux fonctions qui s'en vont. Il y a une fonction, c'est pas très grave de l'avoir enlevée, c'est en fait juste la partie GUI qui se trouve dans Active Directory et qui permet de voir les attributs RFC 2307. Donc pour ceux qui connaissent un peu Unix, c'est tous les attributs POSIX, hein, le username, le champ shell, etc., qu'on est capable de mettre dans Active Directory, parce qu'Active Directory est compatible RFC 2307. Mais en fait, il y a un GUI qui permettait, on va dire, de voir ces éléments-là de façon graphique, et maintenant, Microsoft a décidé de plus le fournir. Alors, ils y sont toujours, les attributs sont toujours là, on peut toujours les manipuler autant qu'on veut. Mais voilà, il n'y a plus le GUI. Donc ça j'allais dire, c'est pas très impactant pour les clients, bon, parce qu'ils ont l'habitude de faire du provisioning automatisé, etc. Ils n'utilisent pas le GUI toute la journée. Il y a un truc qui est un peu plus impactant côté client, c'est les services Nice, en fait. Il y a des... pour ceux qui connaissent un peu Unix, Nice est une espèce d'annuaire central... qui est encore très utilisé en fait chez les clients qui ont de l'Unix et du Linux, ce qui est une mauvaise chose parce que c'est un trou de sécurité béant, mais voilà, l'historique des organisations IT fait que les gens utilisent encore Nice de façon massive. Et Microsoft en fait avait un service pour émuler un service Nice dans Windows Server. Donc c'était pas mal pour les clients, parce que ça leur permettait d'utiliser qu'une seule base de compte et pas d'en avoir deux. Et puis ils avaient de façon centralisée l'ensemble de ces éléments. Donc ce service-là, en fait, n'est plus mis à disposition pour Windows 2016, parce que Microsoft considère que Nice n'est plus utilisé, n'est plus à jour. Alors, ce qui est le cas, on est d'accord, encore une fois, d'un point de vue pur sécu, c'est quelque chose qu'il faudrait éliminer de tous les écosystèmes informatiques. Et donc voilà, j'ai écrit un certain nombre d'articles sur le sujet, et notamment une méthodologie pour des clients qui utilisent ces services for Unix pour la partie Nice, pour aller vers autre chose. Alors qu'il y a des solutions sur le marché qui permettent de faire, en gros, une gateway entre les systèmes Unix, Linux et Active Directory. Donc là, on a un peu le meilleur des deux mondes, c'est ça qui est sympa. C'est-à-dire qu'on utilise en back-end Active Directory, on utilise en front-end des gateway Nice qui font le lien en fait entre ce que c'est faire de l'Unix et ce que c'est faire Active Directory en termes de stockage d'informations. Et cet article-là, ce qui est assez amusant, c'est que je l'avais fait en français au départ, et j'ai commencé à être contacté par des gens du monde entier qui me disent, je sais pas comment ils l'ont trouvé, en faisant Google ou Bing ou je ne sais quoi, et qui m'ont demandé en fait de l'écrire en anglais. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques articles qui sont écrits en anglais, et dont celui-ci. Voilà.
C'est marrant, ça.
J'ai reçu, en l'espace d'une semaine, un peu plus d'une dizaine de personnes qui m'ont contacté en disant « Votre truc est super, mais est-ce que vous ne pourriez pas l'écrire en anglais ?» Parce que Google Traductor ou je ne sais Google Translate ou je ne sais quoi marchait pas super bien. Voilà.
Est-ce que tu as une actualité brûlante très prochainement là, ou...
Alors, au niveau communauté, je travaille de façon encore une fois active sur l'organisation de l'Identity Day. Là, c'est vraiment ce qui me tient. Ou sinon, au niveau de l'actualité, là, en ce moment, les éléments qui sont énormément demandés par les organisations, et j'ai pas mal travaillé sur le sujet, c'est tout ce qui tourne autour de l'identity as a service et le directory as a service. C'est-à-dire que il y a une certaine confusion dans la plupart des organisations sur ces deux notions-là, sur ce qu'on peut faire avec, sur l'utilité que ça a de mettre ce type de service cloud en œuvre ou pas. Et j'ai en fait créé un workshop là-dessus, donc je délivre ce workshop assez régulièrement maintenant. Et il y a beaucoup, beaucoup de clients, on se rend compte, qui ont une vraie difficulté à déjà faire la part des choses sur les différents fournisseurs et ensuite à comprendre les différences fonctionnelles qui existent entre du directory as a service et de l'identity as a service. Alors pour faire très simple, hein, et pour ceux qui ne sont pas très férus de ce genre de choses, l'identity as a service, on peut se représenter ça comme une passerelle de fédération as a service, voilà. Donc avec tout un tas de composants autour, mais on va dire que l'identity as a service est quand même basée sur de la fédération as a service, avec des choses autour, des portails, SSO, etc. Mais le cœur du sujet, c'est de la fédération d'identité. Alors que le directory as a service, c'est le fait de porter en fait un annuaire dans le cloud public. Azure Active Directory n'est pas un directory as a service. Le directory as a service, c'est vraiment un annuaire. Imaginons qu'on mette Active Directory dans le cloud.
Dans du IaaS.
Exactement. Donc le vrai pendant d'un directory pour faire du directory as a service, c'est-à-dire du directory en mode cloud public, c'est Active Directory Domain Services. Ok. Et voilà, on se rend compte quand on discute avec les gens qu'il y a déjà il y a une vraie confusion entre ces deux notions-là. Alors après, la plupart des fournisseurs, que ce soit Microsoft ou les autres, rendent les choses confuses, hein, pour être honnête. C'est-à-dire que avec les noms sont pas très clairs. Et puis on retrouve certaines fonctions d'un directory as a service dans des choses qui sont de l'identity as a service. Par exemple, quand je fais du join depuis un Windows 10 vers de l'Azure AD, c'est une fonction directory as a service. Donc les choses sont un peu confuses dans l'esprit des gens, donc c'est assez important de reposer un peu les bases, de leur expliquer la différence entre toutes ces notions-là, et puis de leur expliquer les différents acteurs qui existent sur le marché. Donc là, c'est assez simple, hein. Moi, je me base sur ce que fait IDC ou Gartner, et puis à partir de là, je présente les acteurs majeurs dans ces sujets-là, et puis expliquer un petit peu les différences. Et ce qui est assez troublant, c'est que sur la partie Microsoft, j'en parle parce que Pascal est en ligne, hein. Mais c'est vrai que sur la partie Microsoft, l'offre est vraiment géniale d'un point de vue technique, hein. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, on sent que il y a eu de gros efforts qui ont été faits sur la partie Identity as a Service. Il y a des choses à venir pour ceux qui sont un peu dans les secrets des dieux, qui sont super sympas.
Il y a une belle intégration avec les produits existants aussi.
Il y a une belle intégration.
Et surtout, il y a un réel effort
côté Microsoft pour faire les choses bien. Et donc, d'un point de vue produit, on commence à être sur des trucs quand même assez matures. Alors, il y a encore un peu de disparité dans les noms, dans les trucs comme ça, mais voilà, le produit est vraiment commence vraiment à être mature. Je sais que Maxime bosse pas mal sur tout ce qui est Azure B2B, B2C, voilà, c'est des sujets qui sont très demandés par les organisations. Mais ce qui est perturbant, en fait, pour la plupart des cas, pour les clients chez Microsoft, c'est juste de comprendre comment ils font l'acquisition de ces services. C'est assez amusant parce que il y a une vraie confusion entre les services que j'achète via Office 365, via Azure, via EMS. Voilà, donc il y a encore une confusion là-dessus. Il y a du travail à faire pour expliquer les choses, comprendre les différents services, à quoi ils correspondent, et puis comment on en fait l'acquisition tout bêtement, quoi. Amusant de voir parfois des acheteurs dans des workshops un peu techniques qui viennent pour comprendre en fait à quel service, à quelle offre, on va dire, c'est rattaché. Donc il y a encore un peu de travail à faire.
Je te rassure, c'est aussi compliqué pour les vendeurs.
Mais je sais, c'est ce que tout le monde me dit en fait, hein. Donc la plupart me disent, voilà, même les gens qui le vendent n'y comprennent pas grand-chose. Donc
c'est un métier.
Donc ça m'étonne pas. Mais voilà, donc okay. Mais c'est des sujets à nouveau, okay, super enrichissants, super intéressants.
Effectivement.
Qui sont d'actualité.
Effectivement. Merci beaucoup, Sylvain, de t'être proposé pour ce soir, de nous avoir raconté ton expérience et puis tes retours sur la gestion des identités et tout ça. On conclut avec Maxime.
Oui, alors moi je vais faire quelques petits apartés sur le MS Cloud Summit, donc qui est un événement communautaire, hein, comme disait Marius tout à l'heure, qui regroupe 5 communautés, Agile.net, AOS, AzugFR, la communauté CMD et le GUS. Donc, voilà, c'est vraiment un événement sous une forme assez particulière sur 3 jours. Une journée de préconférence donc, qui commence lundi 23. Et 2 jours de conférence, dont Pascal et moi sommes les heureux speakers.
Enfin, on est 2 jours de conférence, deux parmi beaucoup de speakers.
Des,
ouais.
Des thèmes assez variés. Quoi. Alors toi, c'est quoi ta session?
Moi, j'ai une session en fait, que je co-présente avec Jean-François Béranguet. C'est lui qui m'a proposé de présenter avec lui sur un sujet qui me plaît bien, puisque c'est en fait les 5 meilleures raisons, je crois, pour adopter Windows Server 2016. Donc en gros, on va parler des meilleures raisons d'adopter Windows Server 2016. Donc on va mettre l'accent sur les grandes nouveautés du produit. Et puis dans une deuxième partie, on va parler un petit peu des avantages qu'il apporte en termes de nouvelles architectures applicatives. Donc notamment tout ce qui est DevOps, support des containers, etc. Ce genre de choses-là. Pour être un petit peu dans le move.
D'accord, c'est le premier ou le deuxième jour, toi, ta session?
C'est le premier jour à 11h moins le quart, si je me souviens bien.
D'accord.
10h45.
Ok.
Le 24.
Super.
Sinon, de toute façon, on se retrouve
ouais,
aussi.
10h45, la veille soir, je te confirme, j'ai l'agenda sous les yeux.
Ouais, voilà. Je pense qu'on va zoner un petit peu les deux jours avec un micro par-ci par-là, je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on. Faudra qu'on discute, mais on fera des petites choses avec nos petits micros.
Ouais. Complètement. Il y a des choses à faire.
Ouais. Et toi, tu présentes ?
J'ai 2 sessions, moi, donc le deuxième jour. Une sur, justement, la partie Enterprise Mobility plus Security, que je co-présente avec Nicolas Bonnet, qui est aussi MVP Enterprise Mobility, je crois. Et donc, voilà, on va faire un petit tour d'horizon sur la suite EMS, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et après, le même jour, un petit peu plus tard dans la soirée, j'ai une session consacrée justement à l'identité Azure Active Directory. Donc le but, c'est de faire le point sur ce qui existe, la roadmap, et puis avoir une discussion assez sympa autour de l'identité. Donc pour revenir en fait sur l'event MS Cloud Summit, c'est quelque chose qu'on a préparé. Alors moi, je fais partie, j'ai essayé d'apporter mon humble pierre à l'édifice en aidant sur l'organisation. Mais en tout, donc, on a quand même réussi à faire un événement qui est complet. On attendait 600 participants, on doit être largement au-dessus. Donc sur 2 jours, on a 7 tracks, 72 sessions au tout, dont notamment 2 keynotes le matin. Alors la première keynote, le premier jour, c'est une keynote plus orientée data, parce qu'on a Rohan Kumar qui vient de Corp, qui est GM sur la partie database système, donc qui nous fera une petite keynote assez sympa. Et le deuxième jour, on a Julia White. Alors là, c'est encore le top management, c'est Corporate Vice President sur la partie cloud et enterprise. Donc elle aussi, elle viendra discuter avec nous sur tout ce qui se passe sur l'MS Cloud Summit.
Et en plus, c'est dans un lieu magnifique. Vous avez fait très fort sur le choix du lieu. Avec une
la vue sur le pont Birakeim. C'est un centre de conférence qui est juste à côté de la Tour Eiffel, dans le 15e. Et on a une vue assez sympa. Alors, j'y suis jamais allé, mais j'ai vu des photos, ça a l'air vraiment top. Et du coup, on aura un espace, bien sûr, pour les conférences. On aura un espace pour des sponsors, parce qu'on a quand même beaucoup de sponsors, dont Microsoft, hein, qui est un de nos sponsors principaux. Donc voilà, on a vraiment une partie qui sera dédiée au networking, aux discussions. On aura même un stand Ask the Expert, un peu comme on le faisait sur MS Experience. Donc on a des MVP qui sont généreusement inscrits pour participer à ce Ask the Expert et être présents sur les stands pour répondre aux questions des gens. Donc voilà, c'est un événement qui pour moi c'est vachement motivant, c'est assez sympa d'avoir pu travailler sur l'organisation de cet événement. Et on vous attend tous nombreux le 24 et 25, en sachant que le 23, du coup, est dédié à des préconférences. Alors, préconférences, il y en a 6 exactement. Qu'est-ce qu'une préconférence? C'est simple, c'est à la limite entre la conférence et l'atelier de travail. C'est sur une journée complète. Le sujet, on va le couvrir de A à Z. Donc, par exemple, j'ai des collègues qui vont faire une préconf sur Windows Server 2016. Sur,
oui.
Qu'est-ce qui, voilà, quoi de neuf dans votre data center. Donc ça, c'est assez sympa. Et d'autres, bien sûr, d'autres préconférences sur SQL Server, Power BI, PowerShell, du Dev Office 365 et Docker aussi sur une, demi-journée.
Est-ce que les préconférences sont aussi sold out, pleines, ou il y a encore de la place?
Alors, de mémoire, il en restait peut-être une. Il faudrait que je revoie sur le Twitter du MS Cloud Summit, mais la quasi-majorité sont aussi sold out, oui. Il doit rester quelques places pour une ou deux préconférences, mais en tout cas, il faut s'inscrire très très rapidement parce que ça part comme des petits pains. On ne s'attendait pas à un engouement aussi gros et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que pour ce premier événement communautaire qui a été organisé sur Paris, au final, il y a une grosse attente et un gros engouement autour de ça, quoi.
Eh ben c'est super. On souhaite le même succès à l'événement Identité de Sylvain.
Tout à fait, oui.
De la communauté Kadim.
Je me ferai un plaisir de participer si je suis le bienvenu, bien sûr.
Eh ben bien sûr, toutes les forces vives seront les bienvenues.
Eh ben écoute, nous super. Aussi, on n'en sera pas loin, hein, je pense. Bah écoute, merci beaucoup Sylvain encore de ta participation ce soir. Je précise qu'on enregistre ça un petit peu tard jeudi soir, jeudi 19.
C'est ça, je commence vraiment à avoir faim. Il est
21h35. Voilà, 21h35.
Je ne peux pas manger un petit Dijon.
Il n'y a que Marius qui est en train de boire des bières et de manger des pizzas.
Ouais, des pizzas aussi.
Il profite.
Donc, merci Sylvain, merci Maxime. On se retrouve très très bientôt puisque la semaine prochaine, il y a le MS Cloud Summit et un autre épisode de ITcast en fin de semaine. Peut-être un bonus en plus avec le MS Cloud Summit, je ne sais pas, on verra. Et écoutez, à bientôt.
Merci à
bonne
tous.
Bonne soirée, bon week-end.
À bientôt.
Et à bientôt. Merci.